je pense, via la visioconférence. Et puis on en aura deux dans les studios, puis deux qui seront à l'antenne. On essaiera de retrouver Max et puis Cédric.
Ça marche.
Allez, bonne soirée à vous tous.
Il fait beau. À 7h, le soleil ne s'est pas encore caché. Vous êtes déconfiné depuis quelques jours après des semaines à vous morfondre langoureusement chez vous. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Vous devriez être dehors et pourtant vous êtes là, à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Peut-être est-ce parce que la saison touche à sa fin et que vous ne voulez pas rater l'avant-dernière émission de Calibre 58. Eh oui, c'est l'avant-der des DR. Une avant-der un peu tristounette pour de multiples raisons, mais nous sommes là, fidèles au poste. Dans cette émission, toujours enregistrée, vous retrouverez vos chroniqueurs de chic et de choc habituels, Linda, Luc et Toups, pour des petites mises en scène jouissives et surtout culturelles. À la manette, votre serviteur zélé Julien. Vous écoutez Radio G sur le 101.5 FM. C'est Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Fallait résumer la dernière quinzaine nécrologique et cinématographique en un film, alors ce serait certainement...
Tous se trouvent ici, par exemple, les commerçants, les clients, conscients ou subconscients. Espoir ou valeur sûre, tous de la sacoche.
De la sacoche?
Et aujourd'hui, on ne dit plus de la jaquette ou de la famille, on dit de la sacoche. T'es pas au courant?
Ben non.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Je vais encore dire que lui, il est de la sacoche.
Le bal des casse-pieds d'Yves Robert, sorti en 1992, et qui met en scène un Jean Rochefort qui interprète un vétérinaire devenu père et qui revient sur tous les emmerdeurs qu'il a croisés dans sa vie. Outre son titre particulièrement explicite et qui peut se décliner à l'infini, et pourquoi pas au sujet des politiques qui prétendent nous gouverner, le film propose sur un scénario de Jean-Loup Dabadie, parmi une ribambelle d'acteurs, Michel Piccoli et Guy Bedos. Alors Guy Bedos, c'était l'impertinence et l'engagement, un personnage clivant et donc forcément intéressant. Certains lui reprochent sa mise en scène, moi je l'aime pour cet œil égrillard et nombre de ses saillies. Michel Piccoli, pour moi, il incarnait la force tranquille. Un homme qui jouait juste, avec une voix posée, simplement, et ce jeu d'acteur qui le caractérisait avec presque toujours ses sentiments intériorisés qui pouvaient faire penser à ses partenaires que c'était un homme froid, insensible, alors que justement, c'était tout le contraire. On se rappelle ces nombreux couples à l'écran formés avec Catherine Deneuve, Romy Schneider, Emmanuel Béard ou encore Miu Miu. Je pense que ce sont bien ces vies au cinéma avec Romy Schneider qui resteront gravées dans les mémoires. Bien sûr, il y a les choses de la vie de Claude Sauté, toujours sur un scénario de Jean-Loup Dabadie, dans lequel Piccoli, au volant d'une voiture, va avoir un accident alors que des bribes de son passé des deux femmes de sa vie l'assaillent pendant le trajet. Il y eut aussi, en 1982, La passante du sans-souci de Jacques Rouffio, un film adapté d'un roman de Joseph Kessel. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Eh bien, Jeff, comme on le surnommait, fait son entrée tardive à la Pléiade des éditions Gallimard, et ce n'est pas Luc qui me contredira si j'affirme que l'on devrait toujours relire Jeff. C'est bien simple, c'est un auteur avec qui on se sent des sympathies, avec qui on peut affirmer que l'on n'est pas tout seul. Hasard ironique du calendrier, Dorian Film ressort La voleuse du méconnu Jean Chapeau avec Michel Piccoli et Romy Schneider. Je dis méconnu car ce réalisateur n'a que deux films à son palmarès. Il se trouve que les cinéphiles le connaissent bien puisque, en dehors de celui-là, il est à la direction du mythique Les Granges Brûlées avec Simone Signoret et Alain Delon, ce dernier se révélant particulièrement, disons pour ne froisser personne, très difficile pendant le tournage avec le réalisateur qui jettera l'éponge pour mieux plonger dans la dépression, laissant à Delon le soin de finir le dit film. Mais revenons à la voleuse qui n'est absolument pas petite.
Je te demande de faire le sacrifice de rendre l'enfant à Kostrovitz.
Non.
Attends encore quelques années. Qu'il ait 12 ans, en âge de raison, de choisir.
Jamais.
Tu auras un autre enfant, Julia, patiente encore.
Mais c'est pas possible, Julia! C'est pas possible!
Je m'en fous, qui ils sont?
Nous allons nous haïr, Julia.
Je le sais, je m'en fous.
Tu vas être seule avec cet enfant. Et ton remords abominable. Parce que tu ne le sais pas encore, mais tu vas le savoir ce que c'est d'aimer un enfant.
Qu'est-ce que tu en sais, toi, espèce de salaud ?
Je le sais par Radek Kostrovitz.
L'action se situe en Allemagne. Julia, Romy Schneider, a eu un enfant quand elle avait 19 ans. La vie lui tendait les bras, et elle croyait pouvoir la croquer à pleines dents. Donc, elle a confié l'enfant à un couple qui ne pouvait en avoir, les Kostrovitch, par l'intermédiaire d'une sage-femme, puis s'en est allée. 6 années ont passé, Julia est mariée à Werner Kreutz, Michel Piccoli, qui ne sait rien de son passé. Et puis, Julia ressent le besoin viscéral de revoir son enfant. Une envie qui peu à peu la ronge, la mine, au point que cette envie même se transforme. Julia veut récupérer Carlo, mais Carlo vit chez un couple qui ne veut plus entendre parler d'elle. Alors le drame arrive. Julia et Werner prennent l'enfant en Kostrovitch. Le mari est un ouvrier sidérurgique polonais qui finira par escalader la cheminée d'un haut fourneau pour revendiquer le retour de Carlo, sinon c'est sûr, il se jettera dans le vide. Et c'est là qu'intervient le moment le plus intéressant du film. Il y a ce huis clos dans un appartement allemand, ces dialogues de Marguerite Duras échangés entre Michel Piccoli et Romy Schneider, avec en toile de fond l'émancipation des femmes, le droit à une sexualité et à l'erreur. Nous sommes en 1966. Marguerite Duras n'a pas encore signé le manifeste des 343. Romy Schneider n'a pas pris position dans le magazine Stern pour un avortement libre et gratuit, mais déjà les soubresauts du droit de la femme à être maîtresse de son corps prennent forme, et ils sont traités avec une violence exacerbée dans ce film. Michel Piccoli est égal à lui-même en cette année 1966, particulièrement faste, puisqu'il tourne outre ce film Les Demoiselles de Rochefort et Belle de Jour. C'est-à-dire qu'il est lui physiquement déjà vieux, avec les cheveux qui déjà le fuient, mais il est somme toute particulièrement charismatique, classe et énervant. Le couple qui forme à l'écran avec Romy Schneider a atteint déjà des sommets. 4 ans plus tard sortira Les choses de la vie de Claude Sautet. Et les images toujours saisissantes de l'acteur français au volant d'une voiture, alors que son histoire avec Romy Schneider en est à un tournant. La voleuse, c'est un film poignant qui mérite d'être vu et revu. C'est chez Dorian Film à partir du mois de juin. Et ça tombe bien, on est en juin. Sur ce, Je laisse la parole à Luc, non sans un petit jingle.
3, 2, 1.
Radio G, 101.5 FM.
Aujourd'hui, je vous invite dans le passé, dans un univers que les vrais amateurs de polar apprécient, le polar historique. On y trouve de grands noms, Umberto Eco, et son nom de la rose reste sans doute la référence incontournable. Mais il y a aussi la célèbre collection Grand Détective chez 10-18, son fameux roman inaugural Meurtre à Canton de Robert Van Gulik, qui met en scène pour la première fois le juge T, reste un des événements de ce genre littéraire. Le polar historique, là, je me la joue conférencier à ses auteurs de référence. Jean-François Parot et son enquêteur Nicolas Le Floch, ou encore Boris Akounin ou Liliane Jackson-Brown. C'en est presque une mode internationale et j'ai l'impression que les séries sont devenues des marques à la manière des blockbusters au cinéma. Pourtant, des nouveaux auteurs apparaissent encore sur la scène. Pari pour le moins risqué au regard de la foultitude de romans existants déjà. Pari plus risqué encore puisqu'il faut pouvoir se distinguer dans cette jungle accaparée par quelques noms bien installés. Pari triplement risqué puisque le genre est un fonds rentable dans lequel s'engouffrent toutes les maisons d'édition à la veille de l'été. Le roman historique, c'est le livre idéal sur la plage. On peut y laisser des grains de sable dans la reliure, des traces de protection solaire au coin des pages, qu'importe, puisqu'une fois fini, on peut l'abandonner sur le sable comme un vieux Kleenex. Malgré cela, dis-je, certains osent s'y essayer, et c'est le cas de Jean-Luc Houdu qui s'est jeté dans le grand bain avec Le Crime du Fenet, publié aux éditions Feuillage, qui semble inaugurer une série avec pour héros Pierre Leloup, lieutenant criminel dans les années 1620. Le Crime du Fenet se déroule à Saumur, dans une période où le conflit entre catholiques et protestants est encore très sensible. Pour le résumer, le jeune Charles Fortin est accusé du meurtre de Maître Colin, au motif que Maître Colin refusait que Fortin se marie avec sa fille. Pierre Leloup, lieutenant criminel, est chargé de l'enquête qui conduira à la résolution d'une affaire plus trouble qu'on pouvait l'imaginer. Dans ce roman, on retrouve un brigand de grand chemin mystérieusement disparu et qui va réapparaître sous une nouvelle identité, des étudiants un peu tête brûlée, des poursuites à cheval, des méthodes policières bien loin des pratiques éthiques modernes, d'anciennes pièces d'or cousues dans le manteau d'un bandit, et une histoire d'amour. Le tout se déroulant au XVIIe siècle, quelques décennies après la Saint-Barthélemy à Saumur, ville très particulière puisque ayant acquis le statut de place forte du parti protestant. C'est un polar de facture on ne peut plus classique, un whodunit, comme on dit en anglais. L'enquêteur Pierre Leloup, lieutenant criminel, est le personnage principal et le lecteur avance dans la résolution du crime au même rythme que lui. Il y a quelques faiblesses et l'une toute particulière, et c'est très rare que je présente cet aspect comme une faiblesse, le roman n'est pas assez long et de fait, il manque un peu de souffle. Les personnages méritait d'être plus exposé, l'intrigue, plus complexe qu'il n'y paraît, donnait l'occasion, du fait de cette complexité, d'être plus développé pour permettre au lecteur d'être totalement imprégné dans la période historique. Parce qu'il faut le dire, Jean-Luc Houdu a la matière et la connaissance de l'époque. Les annexes en fin de roman l'attestent. Il a fait un très important travail de recherche et il connaît parfaitement sa ville. Il a étudié le fonctionnement de la police et de la justice sous Louis XIII. Il s'est penché sur les arcanes des guerres de religion. On aurait aimé passer plus de temps dans le tribunal de Saumur, s'attarder dans les tavernes, trembler beaucoup plus fort lors de l'attaque du camp des brigands dans la forêt. Parce que c'est aussi la fonction du polar historique. Transporter le lecteur dans un autre temps, l'imprégner au point qu'il sort de sa lecture complètement déboussolé. C'est fragile cette histoire-là. Le roman ne doit être ni trop long, au risque de lasser, ni trop court au risque qu'il en devienne pauvre. Il ne doit pas faire œuvre de pédantisme sur la période historique, l'auteur devient alors un petit professeur fatigant, mais il doit nous faire toucher du doigt les étoffes, nous faire nous tordre les pieds dans les chemins cabossés, nous faire sentir le poids des vêtements couverts de poussière après la chevauchée. Il y a de cela dans le roman de Jean-Luc Audu, mais pas suffisamment. Lorsque par exemple Henri Lefebvre, prévôt des maréchaux, sort son pistolet et abat un brigand d'une balle en pleine poitrine, on y est. Péché de jeunesse sans doute, l'ombre tutélaire des maîtres incontournables est sans doute tellement forte qu'elle rend nécessairement modeste et inhibe. Malgré ses faiblesses, ce roman est agréable à lire, comme doit obligatoirement l'être ce genre de livre. Agréable parce qu'il ne prend pas la tête et parce qu'il nous fait découvrir une époque de façon fluide. Le livre s'appelle « Le crime du Fenet », l'auteur c'est Jean-Luc Audu, et il est publié aux éditions Feuillage.
Bisogna morire.
Radio G 101.5 FM. C'est maintenant l'heure d'écouter la chronique de Linda et Toups, une chronique bicéphale comme la dernière fois, et l'on se demande ce qu'ils nous ont bien concocté. Alors, comment ça va ?
Et à tous, bonjour Julien. Donc moi c'est Linda et je suis avec
Toups. Moi c'est Toups.
Alors d'ailleurs, à l'initiative de Toups, nous allons faire une chronique exceptionnelle sur le film Do the Right Thing de Spike Lee. Alors c'est pas tout frais, hein, ça date de 1989. D'ailleurs c'est même encore ça paraît encore plus, enfin moi ça m'a paru encore plus daté que ça, surtout avec le tout le début avec cette femme qui se contorsionne habillé et peigné façon années 70. C'est assez rigolo d'ailleurs ce contraste. Moi ça m'a vraiment intrigué ce contraste de danse qui fait penser à du hip-hop, et en même temps elle est sapée, au moins sur le début elle est sapée, genre petite robe courte, coiffure années 70. C'est très très étonnant.
Ça fait penser à du hip-hop et en même temps ça fait penser aux danses des ça s'appelait pas les Go-Go Girls, mais c'était les filles qui dansaient sur la musique de James Brown. Dans l'orchestre de James Brown, il y avait toujours une ou deux filles qui dansaient.
Ah oui, ça fait penser à ça.
Oui.
D'accord. Moi, ça me fait penser plus à des pom-pom girls, là, quand elle fait des gousi-gousi avec ses caches thoraciques.
Il y a aussi de la pom-pom girl, mais bon, la pom-pom girl, elle a pris ses chorégraphies où ?
Oui, non, puis ça, c'est, comment dire, c'est intemporel.
Oh, n'est-ce pas ?
Bon, alors je m'éloigne. Le film n'est pas du tout sur les pom-pom girls. Hein. En deux mots, on est dans un quartier de Brooklyn. Le QG, c'est une pizzeria. Et on a... ça met en scène, en fait, toutes les tensions raciales qu'il y a. Alors, avec... africano, italiano, latino, irlandano, vietnamio, juifino, enfin, etc. quoi. C'est tout le melting pot qui se frictionne et qui a du mal à vivre ensemble. Exacerbé par une chaleur torride.
Ah, mais c'est carrément la canicule, oui. C'est la chaleur qui est insupportable.
Voilà, en gros pour l'histoire, hein, on ne va pas rentrer trop dans la... Enfin, on pourra rentrer dans les détails après par la suite, mais je voudrais dire tout de suite, donc c'est un film de Spike Lee avec Spike Lee dans un des rôles principaux du Mookie alias le jeune branleur de service.
Ouais.
Parce que alors c'est vraiment ça, quoi. C'est The Branleur.
Ah ouais,
quoi.
Ah ouais. L'authentique branleur de service.
Ah ouais. En personnage, on a donc. Lui, il travaille donc dans la pizzeria de Sal, qui est jouée par Danny Aiello, vraiment l'italien, qui est tenu par donc ce Sal avec ses deux fils.
Sal, ça doit être Salvatore.
Je sais pas, il appelle Sal tout le temps. Mmh. Alors, dans les deux fils, on a Pino et Vito. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai mis un moment à reconnaître. Celui qui joue Pino, c'est John Turturro, mais il est tout bébé.
Il a 30 ans de moins.
Ouais, fastoche quoi. C'est très rigolo. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a ? On a un personnage quand même qui est hyper hyper important, qui est Love Daddy. Quand même.
Et lui
pour,
aussi.
Pour nous aussi en radio en plus, parce que c'est vraiment c'est le fil conducteur qui donne des points d'orgue, des points de repère, des points de plein de choses.
Mr. Love Daddy.
Avec, joué donc par le fameux Samuel L. Jackson. J'adore l'énergie et le phrasé de ce comédien. C'est vraiment magnifique. Voilà, j'ai dit un petit peu tout. Et alors, the personnage, dans les deux les personnages féminins, on a donc la petite copine de Mookie, qui dit à peu près un gros mot toutes les 5 secondes. Qui est donc celle qui se contorsionne au début. Et puis on a Jade, qui est la petite sœur de Mookie.
Et qui est la vraie sœur de
Ah oui, c'est la sœur de Spike Lee.
Et qui est la vraie femme de Spike Lee aussi. La petite copine.
Ah non.
Mais si.
Oh.
Ah oui, c'est vraiment une affaire de famille.
Ah, c'est énorme. Mm. Et bah, alors, tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, moi ce qui m'a... Alors c'est marrant parce que moi je l'avais vu il y a très longtemps, et donc je l'ai revu là, et j'ai eu globalement cette même impression, sortir de ça, qu'il n'y a quasiment aucun personnage avec lequel je suis en adéquation. Je les trouve tous assez... à la fois touchant et à la fois insupportable. Et je pense que c'est vraiment, en termes de responsabilité collective, moi c'est comme ça que j'ai reçu ce film-là, quoi. Parce que franchement, ils sont tous assez horripilants, à un moment donné ou à un autre. À part, je dirais, moi justement, la petite sœur, qui est la seule, je trouve, là-dedans. Et quand même aussi, y a un autre, c'est la petite sœur. Et
Mr. Mayer.
Ouais, le maire, ouais. Quand même, qui est joué par Ossie Davis.
Oui.
Si tu prononces ça comme ça.
Oui, oui.
Qui est vraiment hyper touchant. Et moi, je le trouve. Il se fait insulter pour faiblesse, etc. Moi, je le trouve pas faible. Je le trouve cassé, mais pas faible.
Oui, oui. C'est quelqu'un qui a pris cher et puis qui a eu une vie et puis qui aujourd'hui est à la fin de sa vie et c'est difficile. Donc il n'a pas de moyens, il n'a pas d'argent et il faut quand même continuer à vivre. Mmh.
Je trouve que humainement, ces deux-là s'en tirent plutôt mieux que la globalité. Mais en même temps, en ayant chacun quelque chose d'attachant, quoi. Et c'est ça que je trouve assez astucieux. Parce que pour tout dire, je trouve qu'il y a des côtés qui sont un peu didactiques et datés. Même si à l'époque, ça a dû être un sacré choc, ce film. Mais par contre, la couleur des personnages, elle est intéressante parce que justement, c'est pas manichéen. Enfin, moi, je l'ai reçu comme ça. J'ai pas trouvé ça manichéen au niveau des personnages. Et puis, alors, tu vas nous dire qu'à l'époque où c'est arrivé, tu m'as dit tout à l'heure, ce film a créé une polémique. Et j'ai dit quoi? Why?
Ah oui, oui. Mais on va y arriver. Mais c'est aussi ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était d'abord que ce film a été créé, donc est sorti en 89, et c'était une bonne vingtaine d'années avant le début du mouvement Black Lives Matter. Le mouvement Black Lives Matter qui a été...
Donc en French, ça fait...
Et les vies des Noirs comptent.
Merci.
Pas que pour des prunes, donc. Hein.
Même si t'es pas brune. Ouais, ok. Pardon.
Oui,
désolé.
Oui,
c'est bien. Vas-y, enchaîne. C'est trop pourri, enchaîne.
Non, c'est bien tenté.
Oh la vache.
Pour une fois que c'est pas moi.
Bon, allez. Donc, ça sort en 89, 20 ans avant ce mouvement.
Avant ce mouvement, et aujourd'hui, enfin la semaine dernière, je lis encore dans le journal qu'il y a un contrôle de police qui se termine par la mort d'un homme noir de 46 ans.
Et alors là, moi, je pose la question à Toups, je lui dis, où ça, en France? Et il me dit, mais non, aux États-Unis. Mais bon.
Cette fois-là, c'était aux États-Unis. Ouais, ouais.
Et donc,
ça fait que le film, il reste...
Il est très d'actualité, si c'est ça que tu veux dire.
Oui.
Ah oui, ah bah, surtout...
Il est daté par la plastique, par pas mal de choses, mais...
Surtout avec le retour, la tentative post-raciale d'Obama, qui c'est 2 fois 4 ans, hein, ça s'est fait. Et donc là, on est en plein dans le retour de cette façon de fonctionner par clan, de scission, de cloison à l'heure du coronavirus. Oui. Où effectivement, il faut que ça reste chacun chez soi, quoi.
J'avais un prof qui me disait la stagnation, c'est la régression. Et là, je pense que.
Ah ouais, bah, on va dire que c'est cyclique. On va essayer de pas plomber tout le monde. Moi, il y a un autre truc qui m'a vraiment. Alors, c'est pas que moi. Je suis désolée, j'ai commencé ma phrase comme ça. Le truc qui est vraiment prégnant, c'est ce travail avec le son qui est omniprésent. Avec le fil conducteur dont je parlais tout à l'heure, la radio. Et c'est marrant parce que tantôt, on est dans le studio d'enregistrement avec Love Daddy. Donc, on le voit mettre le son, on entend, on baigne dedans. Puis, pouf, on glisse dans un appartement de quelqu'un qui écoute la radio. Donc, il y a un continuum, en fait. Et ça fait la bande-son. Mmh. Avec le conflit avec ce gars qui se balade toujours avec son énorme transistor avec 25 piles. Parce que bon, quand même, c'est 1989. Hein. Donc, il a un énorme transistor avec 25 piles dedans.
Mais par contre, il fait beaucoup de bruit, son transistor.
À fond, en permanence.
Ah, il met tous les volumes à 11.
Et alors, il passe que un morceau de Public Enemy. C'est toujours le même.
C'est toujours le même.
Et il a toujours un regard de tueur si jamais t'aimes pas sa musique, quoi. Et tu sens qu'il va se passer un truc avec ce gars-là, tu sais pas trop quoi, mais c'est un élément récurrent. Et à chaque fois, il y a un passage qui est drôle quand ils font concours avec les hispanos qui sont en train de mettre genre salsa, etc. Ils sont tranquillous, en train de boire des coups. Lui, il arrive. Et là, c'est règlement de compte à OK Corral. Ah ouais, il monte le volume, quoi.
Les autres montent le volume aussi.
Et ça finit. OK. You win. Ouais, il lâche l'affaire.
Les autres, ils n'ont pas assez de piles, ils n'ont pas assez de volume.
Pas assez de puissance, ils coupent la salsa et c'est l'autre qui gagne. Bon, voilà. Il n'arrête pas de jouer de toute façon, notamment grâce au son, entre relâché et tension. Ça ne cesse, on se dit, ah bah ça c'est cool, et boum, en 3 secondes, ça repart, c'est hyper tendu. Il ne cesse de faire ça. C'est assez. D'ailleurs, la musique qui passe là, tu peux nous en dire un peu? C'était un tube à l'époque. Comment il s'appelle le morceau?
Fight the Power.
Ah, c'est ça.
Ah oui. Oui, ça a été un gros tube. Et puis, en plus, ce film a aidé quand même pas mal Public Enemy parce que il y a des gens qui ont vu ce film comme un clip géant pour Public Enemy.
Ah bah oui, le morceau passe en boucle.
Le morceau, il passe à chaque fois qu'il y a le personnage qui arrive. Il y a le morceau qui arrive en même temps, et c'est vrai que c'est au bout d'un moment c'est un peu stressant, ça fatigue même, parce que c'est un morceau qui est pas tranquille, en fait c'est un morceau de revendication. c'est la base du rap, c'est l'époque où le rap c'était pas une musique pour le genre idéal, c'était vraiment c'est vraiment une musique de revendication pour dire il y a des choses qui vont pas,
de haine de la société,
et on le dit comme à une époque Trust chantait antisocial, voilà. Mm. C'était des musiques qui avaient besoin de porter un message.
Et d'ailleurs, il y a un moment donné, il y a un des personnages qui est par ailleurs est horripilant, mais qui lui dit, mais écoute, j'ai pas le moral la sortie. Tu veux pas changer de morceau? C'est toujours le même, quoi. Mais c'est bien. Non oui, non, mais c'est bien, mais c'est toujours le même. Et c'est vrai que ça tend un peu, quoi. Par rapport au son, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Toups? Parce qu'ils mettent musique, David Hines, mauvaise info alors. Vas-y.
La bande son, c'est Bill Lee, c'est le papa de Spike Lee, qui est contrebassiste de jazz, et qui a fait pas mal de musiques de son fils. Et,
des musiques des films de son fils.
Des musiques des films de son fils. Mm-hmm. Et par contre, il y a pas mal d'autres musiques qui sont incorporées dans ce film, puisque grâce à la radio.
Mais oui, voilà, c'est prétexte à nous faire écouter. Le son est assez omniprésent. Il me semble que tout à l'heure, t'as répondu par rapport à la polémique hors note. Je ne crois pas.
Je ne sais plus, c'était quoi la
tu
question.
Tu m'as baladé, tu t'es dit, il a fait polémique quand il est sorti, et tu m'as dit, je vais d'abord parler de ce mouvement,
oui.
Tu m'as embrouillé.
Mais parce que la polémique, ça a été que, on est obligé de dévoiler un peu ce qui se passe à un moment donné.
Bah, pas trop, hein, quand même.
On est un peu obligé pour parler de cette polémique, sinon on ne peut pas en parler.
Vas-y.
Donc il y a ce jeune noir qui est tué par la police.
Oui.
Et,
on dira pas qui.
il y a un jeune noir qui est tué par la police, on dira pas qui, pour garder le suspense.
Bah oui.
Ce jeune noir est donc tué par la police et il y a une scène de vandalisation qui suit.
Vandalisme, non ?
Oui.
Il y a
la mise à sac.
Bref, enfin, ils cassent tout.
Il y a la mise à sac
d'un endroit.
D'un endroit. Et donc, les gens, Spike Lee, plein de gens lui ont posé la question de oui, c'est pas bien ce qu'il a fait, Mookie. C'est pas bien, pourquoi il a fait ça, il aurait pas dû faire ça. Et Spike Lee répondait, mais. C'est incroyable, personne ne m'a demandé si c'était plus important de casser un lieu ou de tuer un jeune noir.
Mais c'est d'ailleurs... Oui.
C'était ça la polémique du film.
D'accord. Fait. Oui, alors que dans le film, pour rester vraiment dans le film, moi je l'ai vraiment su, où il ne répond pas à cette antinomie, l'antagonisme qu'il y avait effectivement versus... Martin Luther King versus Malcolm X, où justement, au contraire, en fait, il ne cesse de montrer cette photo au long du film, qui est quand même aussi récurrente, où on les voit tous les deux. Ils ont deux positionnements différents, effectivement, où il y en a un qui dit clairement, de toute façon, la violence est néfaste à celui qui la reçoit et à celui qui la commet. Donc, ce n'est pas une solution. Et Malcolm X qui dit, oui, mais quand on se défend, c'est plus de la violence, c'est de l'intelligence. Donc il y a les deux qui... Et moi, il ne me semble pas qu'ils répondent.
Ah ben, il peut pas répondre.
Non, mais on pourrait dire qu'il prend le... Tu vois, par rapport à ce que tu dis, cette polémique, etc. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils répondent. Il faut être violent, il ne faut pas être violent. Non. Ils ne donnent pas de leçons. Et ils montrent bien cette photo où les deux hommes se serrent la main, quoi. Ils ont beau ne pas être d'accord, ils se serrent la main et ça n'empêche pas. Tu peux ne pas être d'accord.
Il faut quand même savoir que les deux se sont fait descendre justement parce qu'ils venaient de se rencontrer plusieurs fois et qu'il était fortement question qu'ils s'unissent et qu'ils mettent leurs forces ensemble pour arriver à une solution. C'était une époque où les Noirs n'avaient pas le droit de vote. Comme en France, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans le consentement de leur mari.
Alors, je ne te dis pas pour les femmes noires.
Ah ben...
Là, c'était double peine. J'ai envie de passer maintenant au concept toupsien. Parce qu'il faut savoir que dans ce film, à un moment donné, c'est absolument génial. Nous avons donc le personnage de Samuel L. Jackson.
Alias Mr. Love Daddy.
Voilà, qui fait une énumération très longue de plein de musiciens, musiciennes, chanteuses, etc. Et il leur dit merci pour ce qu'ils ont apporté. Et Toops me dit, ah mais en fait, il faudrait que je prenne cette liste. Et que j'amène à... Parce que honnêtement, il y en a que je connais évidemment, mais il y en a plein aussi que je ne connais absolument pas. Et je pense que je suis même certaine que je ne suis pas la seule. Et donc je trouvais ça très intéressant de reprendre cette liste de ce film comme un point de départ, de dire, il y a certains dont j'ai déjà parlé, certains ou certaines. Et puis, allons dans cette liste et parlons de ces musiciens, effectivement, qu'on remercie pour toute la beauté qu'ils ont apportée au monde. Et là où le concept de Toops est archi puissant, c'est que on valide le truc, on trouve ça top, machin, on prépare, tatata. Et juste le jour où on commence, il me dit « Ah oui, mais en fait, j'aimerais bien commencer par une musicienne qui n'est pas dans la liste. » Alors là, moi, je dis bravo. Je pense que la logique de Toops sera toujours un peu hermétique à mon mode de fonctionnement. Je ne sais pas, je dois être trop pragmatique, cartésienne, je ne sais pas, terre à terre, en fait, je ne sais pas.
Non, mais il se trouve que...
Mais oui, mon Toops. Non, mais... Mais en même temps, pour reprendre une expression très usitée par les temps qui courent...
Qui a été très à la mode pendant...
Oui. La musicienne chanteuse qui me propose, je peux dire que oui, parce que elle était infiniment géniale et infiniment non reconnue. Et certaines mauvaises langues diraient que c'était parce que c'était une femme.
Bon, qu'est-ce que tu vas chercher là?
Et en plus, noire.
Mais oui, ok, ça effectivement.
Si ça quand même, on peut pas le nier.
On peut pas le nier.
Alors vas-y, annonce-nous. cette grande dame.
Cette grande dame.
Comment qu'elle s'appelait?
Eh bien, d'abord, avant de dire son nom.
Ah, le suspense, c'est à son comble.
Parmi ses fans, elle comptait Keith Richards. Keith Richards, qui est donc le guitariste des Stones. Elle comptait Jeff Beck et Eric Clapton.
Qui sont là, donc les
guitaristes, anciens guitaristes avec Jimmy Page des Yardbirds, groupe de rock qui a fait la révolution dans les années 60. C'était la chanteuse favorite de Johnny Cash.
Alors là, je connais le nom, mais...
Tu dis que tu connais parce que tout le monde le connaît.
Non, mais j'ai déjà entendu, je connais le nom.
Ils ont fait un biopic sur lui il y a quelques années qui a cartonné, qui a fait des...
Il était dans un groupe ? Je passe pour la culture et de service.
Non, il faisait sa carrière solo, mais d'accord. C'était un chanteur de rock, de blues, de rockabilly, de country.
D'accord.
Et de gospel.
Ok.
Blanc, il faut préciser.
Ok.
Pas le gospel, lui, le chanteur. Qu'est-ce que je suis drôle.
Oui, vas-y, enchaîne, je pense.
Elvis, Led Zeppelin, Nina Simone,
Led Zeppelin.
Van Morrison.
Oh la vache.
Les Grateful Dead. Et j'en passe, des moins connus ont repris ses tubes. Elle a influencé.
Ah bah tu vois, toi aussi. Hein. Voilà. La moitié de la population, mesdames et messieurs.
Bah oui, c'est un grand homme, forcément.
Cette femme est un grand homme, vu qu'elle était forcément.
Elle a influencé Bruce Springsteen.
Bon, allez, lâche-nous le morceau.
Oui, et elle s'appelait Sister Rosetta Tharpe. Et je dis bien Sister parce que c'était une femme qui venait du gospel.
D'accord.
Elle venait du gospel et elle faisait une musique incroyable. Elle, d'abord, une chanteuse incroyable, guitariste incroyable.
Ah oui. On a vu des images et un reportage sur elle. D'ailleurs, tu as les références ou pas ?
Il y a un documentaire.
Vous pouvez retrouver sur le net, je pense.
Oui, on peut le retrouver sur. Je ne sais pas le titre du documentaire sur sa vie qui est sorti en 2011.
Tu redis le nom de la dame ?
Sister Rosetta Tharpe. C'est peut-être The Godmother of Rock'n'Roll. La marraine du rock'n'roll. Pour moi, c'est plus que la marraine, c'est la créatrice, quoi. Chuck Berry qui est celui qui a introduit les guitares, les solos de guitare dans les chansons.
Elle est incroyable, les images. J'en parle parce que
Ce n'est pas Chuck Berry qui a inventé le rock'n'roll.
Ouais, c'est ça. Hein. Vas-y, redis.
Ni Elvis, ce n'est ni Elvis ni Chuck Berry qui ont inventé le rock'n'roll. C'est Sister Rosetta Tharpe.
Et alors, quand on la voit avec une guitare. On a l'impression qu'elle pourrait, elle chante, elle joue. On a l'impression qu'elle pourrait boire un café et téléphoner en même temps. Quoi.
Elle est juste extrêmement à l'aise.
Ah là là,
c'est juste d'un naturel absolu.
Et le décalage, au fur et à mesure des années, quand la guitare électrique arrive, et on la, c'est complètement surréaliste. Elle a une tenue très vieillotte.
Ah ben, elle a une tenue tu vois vous voyez peut-être les vitrines des magasins Damar.
Oh, ça c'est pas sympa parce que moi je mets du damar, alors merci.
Oui, mais tu mets du damar en sous-vêtement.
En dessous, oui.
Voilà. Et voilà, c'est ça la différence.
Oui, alors disons que voilà, et en même temps, vous imaginez ça avec une espèce de travail de cheveux perruqués, enfin voilà, vraiment à l'ancienne, et une guitare électrique dessus. C'est surréaliste. Et ça groove, ça déchire. Quoi.
C'est un peu comme si c'était Carmen Cru qui jouait de la guitare électrique.
Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Mais et la banane, enfin, elle se marre, enfin,
elle
légèreté
chante, elle
en faisant ça. Ouais.
Et je vais passer un extrait, deux extraits, parce qu'il y a une version de Louis Armstrong que je voudrais absolument comparer à celle de Rosetta Tharpe, un gospel, donc qui s'appelle Did Not It Rain. Didn't Rain.
Ok, donc passe maintenant.
Didn't it rain, children, my Lord? Didn't it rain, Lord? Didn't it rain? Now, didn't it rain, children, my Lord? Didn't it rain, Lord? Didn't it rain?
Great God, now it rained 40 days and 40 nights without a stopping. Noah was there when the rain started dropping. He was so very busy because the rain wasn't stopping that he couldn't hear the angels when they moaned.
Brothers, now didn't it rain?
Children,
my
40 days and 40 nights you couldn't see. Some climbed a mountain, some climbed a tree. Some were busy roaring, shouting, no, rescue me. That he couldn't hear the angels when they moaned.
Since there's no day to hit rain. The people was going from door to door, crying, oh no, why don't you take on some more? But he had the windows locked, so they beat on the door, and he couldn't hear the angels when they moaned.
Brothers, not getting it right.
Donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'était la version de
Louis Armstrong. Et maintenant, nous écoutons la version du même morceau, Didn't It Rain. Bon.
Voilà, c'est bien comme ça.
Par Sister Rosetta Tharpe.
Tu peux nous l'épeler une fois son nom.
Tharpe. C'est comme quand tu sautes.
Arrête.
Quand t'as un feu sur la langue.
Allez, dépêche-toi.
Rosetta, comme Rosetta.
Oui, ok, mais.
Tharpe, T-H-A-R-P-E.
Ah, merci de ta clarté.
Oh, yeah! I love you so, my English friends, forever and ever until I leave this world.
Voilà, c'était donc... Que dire de plus?
Oui, merci.
Je pense qu'il n'y a rien à répéter.
Franchement, nous avoir fait découvrir cette grande dame et encore un grand merci pour ta grande cohérence intellectuelle. J'adore. Tu m'en refais comme ça quand tu veux. Allez, à bientôt.
Oh, purée.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM et c'est toujours Calibre 58, votre émission de bien mauvais genre. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé d'espionnage. Mais si, vous savez bien. Depuis, hasard de mes lectures, je me suis plongé dans le nouveau roman de John le Carré. Et je peux d'ores et déjà vous affirmer qu'à ma connaissance, c'est le plus grand roman d'espionnage de tous les temps, oui, je dis bien de tous les temps, dans le monde du badminton. Retour de service, publié au Seuil, se situe dans la Grande-Bretagne de l'après-Brexit. C'est dire si c'est d'actualité. Il ne manque qu'un méchant virus pour que le regard que porte John le Carré sur les terres de sa gracieuse majesté soit complet. Dans ce roman unitaire, ou ne pas taire, telle est la question, l'écrivain met en scène un agent secret proche de la retraite qui retrouve son pays, sa femme, sa fille et quelques habitudes parmi lesquelles aller chaque semaine à son club préféré de badminton, dont il est le champion presque invincible. C'est là-bas qu'il va croiser un jeune idéaliste un peu rentre-dedans et qu'un lien respectueux va se nouer. Mais le hasard est cruel, et si l'un et l'autre sont des agents du même bord mais pas du même service, si l'un et l'autre ne semblent pas savoir qu'ils sont en présence d'un autre agent secret, ils vont être ramenés au centre du terrain par une opération de contre-espionnage. Avec cette intrigue, John le Carré fait preuve à la fois de maîtrise, d'ingéniosité et de machiavélisme qui nous rend paranoïaques. Pour celles et ceux qui, comme moi, pensaient que les romans d'espionnage dans un monde contemporain étaient inintéressants au possible, c'est l'heure de se montrer bon joueur et d'accepter la défaite. Et de s'intéresser de près aux jeux de raquettes, puisque le badminton semble être à l'espionnage ce que le tennis de table est au roman policier. Pour ce dernier, relisez les aventures d'Isaac Sidel sous la plume de Jérôme Charine ou attendez un petit peu le prochain roman de Dominique Manotti. Retour de service de John le Carré au Seuil. Vous pouvez y aller, c'est que du bon. Loin des terrains de badminton, l'excellente bande dessinée Philby, naissance d'un agent double de Pierre Boisserie et Christophe Gauthier aux arènes BD. Alors, là aussi, un idéaliste, Philby, fils d'un agent secret qui se convertira à l'islam tout en empruntant les sentiers du fascisme dans les années 1930. Ce Philby, le fils de l'autre, est un personnage réel légendaire. Si vous voulez en savoir plus sur lui, allez voir du côté de l'auteur Robert Little, dont je vous ai déjà causé blabli blabla. Vous saurez tout ou presque. Ici, nous sommes dans une fiction particulièrement bien documentée, mais qui se place d'entrée sous les apparats de la littérature. En effet, les premières pages nous plongent dans le roman mythique Kim de Rudyard Kipling. Alors Kim, c'est très bon. Si vous ne savez pas quoi lire après toutes ces chroniques, vous pouvez essayer de lire Kim, l'histoire d'un gamin indien à l'époque coloniale, évidemment on est dans Kipling, qui espionne pour les Anglais. Par une pirouette limpide, la bande dessinée se terminera avec Graham Greene. Là aussi, est-ce que vous voulez que je me répète par rapport à ce que j'ai dit la quinzaine dernière sur Graham Greene, cet auteur d'espionnage ? Je ne crois pas, non. Bon, revenons à cette bande dessinée. Entre ces deux inserts littéraires, on voit se dérouler les aventures romanesques de Philby. Ses rencontres, sa traversée de l'Europe, ses amours et ses idéaux. Le dessin de Christophe Gauthier a ce petit truc suranné et figé, comme s'il avait utilisé de l'encre de Chine et des pastels. Il y a quelques hésitations du côté de la ligne claire et des inspirations qui ont été puisées chez Miles Simon et Jacques de Loustal. C'est plutôt de bons choix. tour à tour le trait naïf puis anguleux, appréciable. Loin du grand espionnage, c'est plutôt un témoignage à une époque où l'on avait encore des idéaux. Philby, naissance d'un agent double de Pierre Boisserie et Christophe Gauthier, c'est aux arènes BD. C'est maintenant l'heure, malheureusement, de se quitter. On vous dit avec des trémolos dans la voix, à dans 15 jours pour la dernière émission de la saison. La semaine prochaine, retrouvez nos amis imaginaires. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
Dans la viande, ce qu'il faut c'est beaucoup de viande et celui qui vous parle il a l'œil pour les bons morceaux.
Caresse métallique sur Radio G 101.5 FM, un mardi sur deux de 22h à minuit, l'émission qui te déchire les tympans.